Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission. Bonjour Joël,
bonjour.
Michel,
bonjour.
Et Natacha.
Bonjour.
Et pour nous accompagner tout au long de l'émission, Anne Huiton, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes programmatrice à La Tannerie, la scène de musique actuelle burzienne.
Tout à fait.
Alors aujourd'hui, l'art et le féminisme, même pas peur les filles de Radio B, un sujet énorme. Tout d'abord, savez-vous en combien de catégories sont classés les arts?
Eh ben non.
Moi j'aurais dit genre 9, un truc comme ça.
Eh ben il y en a 10. Alors je vais pas tous les faire, mais ça commence par le théâtre, la danse, le mime, pantomime, etc. Et ça finit par les jeux vidéo, le 10e.
Je ne savais pas.
Voilà. Alors nous, qu'est-ce qu'on veut en dire? Quelle est la place des femmes dans les pratiques artistiques, dans les directions des écoles, dans la direction des conservatoires, des musées et autres institutions? Et pour ce faire, comme d'habitude, chacune est allée glaner ici et là dans un essai, un documentaire, des connaissances. Et nous voilà en ce mois de février 2024.
Et si on commençait par les arts plastiques, les arts visuels, c'est-à-dire la peinture, sculpture, gravure. Alors, est-ce qu'il est peut-être, il est peut-être difficile de citer le nom d'une peintre célèbre, enfin en tout cas d'en citer plusieurs. Pas simple non plus de trouver des toiles ou des sculptures réalisées par des femmes dans les musées. Dans les collections du Louvre par exemple, le site ONU Femmes rappelle qu'on comptabilise 42 peintures exécutées par 28 femmes, soit 0,78% des œuvres présentes. Ouais, c'est hallucinant. N'y a-t-il jamais eu de femme artiste dans le passé? Pas de peintre, pas de sculptrice, pas de graveuse célèbre? Pour y voir plus clair, nous sommes allés interroger Séverine Sofio. Séverine Sofio est sociologue, chargée de recherche au CNRS et travaille notamment sur l'histoire sociale des femmes artistes, en particulier dans les arts visuels.
Déjà, on va partir de quelque chose qui est important à dire, c'est que des artistes femmes, il y en a toujours eu. Depuis que l'art existe, on a toujours eu des artistes femmes, il y en avait dans l'Antiquité, et on a trouvé des preuves qu'il y en avait aussi au Moyen-Âge, et il y en avait à l'époque moderne, et il y en a encore aujourd'hui. Enfin voilà, ça, il y en a toujours eu. Enfin, ça, c'est vraiment... Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui, la plupart des noms aient disparu? Donc il y a eu pas mal d'études sur différentes périodes, et ce qui semblerait, c'est que la plus grosse déperdition de noms se fasse dans l'entrée dans l'histoire, en fait. Alors évidemment, il y a toujours des handicaps spécifiques aux femmes dans l'entrée dans la professionnalisation, dans l'entrée dans le métier, mais en fait, jusqu'à une période très particulière qui est celle que j'ai étudiée, en fait, qui est la fin du 18e siècle, le plus gros contingent d'artistes femmes étaient des enfants d'artistes. Donc, elles étaient dans des familles d'artistes qui étaient formées sur le tas, dans le cadre familial, dans un cadre très traditionnel, artisanal. Donc, au final, la professionnalisation, elle ne posait pas tant de problèmes que ça. C'était plutôt, ça se faisait un peu naturellement. On sait que les artistes femmes ont longtemps été invisibilisées, mais au même titre que toutes les autres personnes qui travaillaient dans les ateliers, c'est-à-dire les apprentis, les compagnons. En fait, l'art était pendant très longtemps et pendant... l'art est depuis peu une production individuelle. Et encore, même ça se discute. Mais pendant très longtemps, l'essentiel de l'histoire, l'art était une production collective. Et donc, ces ateliers familiaux produisaient des œuvres, et il était évident que ces œuvres étaient produites par un collectif, le collectif de l'atelier, et il était évident pour tout le monde que c'était le maître qui signait, mais que le maître de l'atelier, le chef de l'atelier en fait, mais que, ces œuvres étaient collectives, et que on savait très bien, mais tout ça est à replacer dans une époque où il y avait aussi une compréhension beaucoup plus lâche de l'originalité des œuvres, par exemple. Les inégalités n'étaient pas criantes comme elles ont pu l'être par la suite, à un moment où l'art s'individualise et où les carrières s'individualisent et où le nom devient important et où assumer sa condition de femme devient peut-être un peu plus compliqué.
Avant que les choses ne deviennent plus compliquées pour les femmes artistes, Séverine Sofio nous explique que l'histoire a même connu, en France, de la fin du 18e siècle à 1830-1840 environ, ce qu'elle appelle une parenthèse enchantée, c'est-à-dire une période de professionnalisation et de visibilité importante pour les femmes artistes. Pendant cette période, il y a une arrivée massive de femmes, des femmes qui ont la particularité par rapport à la période précédente de ne pas être forcément des filles d'artistes. Et pendant cette période, qui est une période de grande effervescence effervescence pour les artistes femmes, eh ben elles vont exposer, elles accèdent aux commandes d'État, elles obtiennent des récompenses, elles deviennent visibles, connues et reconnues. Elles ouvrent même des ateliers d'élèves, forment d'autres artistes femmes. On en parle dans les journaux, certaines d'entre elles sont très très célèbres. Et autour de 1830-1840, cette parenthèse enchantée étudiée par Séverine Sofiot se termine. Comment, pourquoi, qu'est-ce qui explique la fin de cette période faste pour les femmes artistes professionnelles?
Et ce qui se passe, le retournement qui se passe, qui contribue à la fin de la parenthèse enchantée, c'est le fait que le travail devient interdit aux femmes. Et ça, c'est un phénomène qui n'est pas réservé au monde de l'art, en fait, mais qui est beaucoup plus général dans la société française et qui est l'avènement du suffrage universel masculin en 1848, qui s'ancre sur une rhétorique de le droit à la citoyenneté devient justifié, se justifie par la contribution par le travail. Or, seuls les hommes ont la citoyenneté, donc seuls les hommes travaillent. Et c'est vraiment un basculement qu'on voit dans toute la société française. On a tendance à dire que c'est le code civil qui a infantilisé les femmes, qui les a mis dans un rôle de mineur dans la famille et qui a poussé ce double standard du domestique pour les femmes et du public pour les hommes. Or, ce n'est pas tout à fait vrai. Enfin, ça, c'était dans les textes de loi. Mais la vérité, c'est qu'en fait, il y a eu plusieurs générations avant que ça s'ancre vraiment dans les mœurs et dans les pratiques. Ça, il y a eu plein de livres sur la question, notamment un qui est un très beau livre sur les commerçantes dans le nord de la France, qui a montré ce basculement, en fait, à partir de la fin des années 40, tout à coup, les femmes qui étaient très investies dans les petits commerces, tout à coup, deviennent indésirables. On les pousse un peu vers l'extérieur et elles peu à peu, cette espèce d'idéal bourgeois de la femme oisive s'impose, mais partout dans tous les cercles, y compris dans l'art, en fait. Du coup, ces travailleuses de l'art deviennent un peu indésirables, un peu, voilà, pas les bienvenues. Après, il y a des changements qui sont internes au monde de l'art, notamment cette individualisation dont je parlais, et puis aussi une crise qui est liée au nombre de peintres, en fait. Il y a de plus en plus de peintres, la vie devient assez difficile, là aussi pour plein de raisons, notamment parce qu'il y a la concurrence de la photo qui arrive à partir des années 1840-50, ce qui enlève, enfin voilà, il y a tout un pan de la profession qui devient au chômage, qui passe au chômage technique, en fait. Donc voilà, enfin il y a des tensions au sein du milieu professionnel de l'art qui font que les femmes sont, voilà, de plus en plus indésirables.
Nous l'avons vu dès le XVIIIe siècle, dès le XIXe, des femmes ont fait carrière dans l'art. Elles sont reconnues même de leur vivant. Mais aujourd'hui, on ne s'en souvient plus. L'histoire les a oubliées. La mémoire collective les a effacées. Que s'est-il donc passé?
C'est un phénomène qui a été étudié par plusieurs sociologues. Et on se rend compte que c'est lié à plein de facteurs, notamment le fait qu'elles n'ont pas... alors, c'est des choses toutes bêtes, hein, mais beaucoup d'artistes hommes, après leur mort, bénéficient de l'action de leur veuve pour rassembler leur œuvre, pour initier des expositions rétrospectives, pour faire en sorte que les œuvres soient achetées par un musée ou léguées à un musée, qui, dans ce cas-là, à partir du moment où des œuvres d'un ou une artiste entrent dans les collections nationales, on est à peu près sûr que, c'est un cran qui est passé dans l'accès à la renommée posthume. C'est une étape importante dans la vie posthume d'un artiste ou d'une artiste, l'acquisition de ses œuvres par un fonds national, y compris aujourd'hui d'ailleurs, hein, y compris pour les artistes contemporains. Mais donc voilà, tout ce travail des veuves, eh ben, les artistes femmes n'ont pas l'équivalent avec les veufs. Souvent d'ailleurs parce que les veufs n'existent pas, puisque les femmes vivaient déjà un peu plus vieilles que les hommes. Et puis et souvent, celles qui ont les plus longues carrières n'ont pas eu d'enfants ou les enfants sont moins nombreux, tout ce travail que font les entrepreneurs de mémoire, en fait, pour les artistes hommes, pour travailler le souvenir et le dynamisme de l'œuvre d'un artiste, même s'il est mort, il n'y avait pas tellement ça pour les femmes. Donc voilà, tout ça fait qu'on oublie les noms.
Alors merci à Séverine Sofiot pour cette interview et à Éric Brun qui a réalisé cet entretien avec la sociologue. Alors Joël, des femmes dont on oublie le nom, ça me fait penser à cette peinture de Marie Morel intitulée « Les femmes oubliées des siècles passés ».
Oui, Marie Morel, c'est une artiste qui vit pas loin, là, sur le plateau du Rotor. Elle peint, elle dessine, elle réalise des collages. Récemment, elle a filmé, monté une vidéo sur sa vie et sur son travail. Elle en a même composé la musique. On la voit jouer au piano et de violoncelle. C'est une fille qui touche à tout et qui réussit.
Ouais, et parmi les œuvres majeures qu'elle a réalisées, qui sont évoquées dans un petit livre d'entretien là, qu'on a pu consulter, qui a été publié en 2015, on trouve des sujets qui concernent les femmes, en particulier le corps des femmes, la grossesse, la sexualité des femmes âgées, la sexualité entre femmes. Elle aborde aussi dans ses œuvres, enfin, elle a un travail autour des œuvres assez érotiques et enfin, très érotiques hein, et crues, qui l'ont fait aussi connaître. Quelque chose qui m'a intéressée aussi dans ce livre d'entretien, c'est qu'elle évoque comment elle a réussi à exposer assez facilement grâce à trois galéristes parisiennes qui l'ont le plus soutenue. Et alors, elle n'en a pas forcément conscience, elle ne le conscientise pas quand elle l'exprime, mais ces trois galéristes sont trois femmes, en fait. Et ça m'a fait penser à ce que Séverine Sofio raconte dans un autre moment de l'entretien. C'est l'importance aussi de la féminisation des intermédiaires, c'est-à-dire les galéristes, les commissaires d'exposition, pour ce qui concerne les arts visuels, pour permettre aux femmes artistes d'exposer, d'être connues.
Oui, en fait, Marie Morel, quand je l'ai eue par mail, elle me disait qu'elle n'avait pas de mal du tout à exposer, que ce n'était pas un sujet, d'ailleurs, parce que c'est quelqu'un qui expose beaucoup, beaucoup, que le seul frein, c'est la censure qui existe sur les œuvres érotiques, mais elle dit que ce n'est pas spécialement les femmes, c'est qu'en France, c'est compliqué d'exposer des œuvres qui traitent de ce sujet. Alors, c'est une fille qui travaille des petits formats, des grands, des séries aussi, et une série dont tu parlais, et dont j'avais envie de parler aussi, et qui fait écho au travail de Séverine Sofio et de Geneviève Fraisse, qui ont travaillé sur l'histoire avec un grand H et les femmes dans les arts. Le sujet de cette grande fresque, c'est comme tu disais, les femmes du siècle passé, c'est son nom, et ça ne concerne pas que les femmes artistes. Marie Morel, elle en parle. Voici quelques extraits d'interview. Excusez le son, qui n'est pas top. Je l'ai recueilli sur un ITV, sur un interview qui était réalisé en télé, en 2019, à l'occasion d'une expo à Chambéry qui s'appelait « Femmes, rires et larmes ».
Alors, je présente un travail que je fais depuis 8 ans, qui est une recherche des femmes qu'on a oubliées. Il y a des peintres, des philosophes, des scientifiques qui ont réalisé des choses, mais les femmes ont été censurées. Oubliées et censurées. Parce que les femmes, à l'époque, n'avaient pas le droit de travailler, d'avoir des métiers, de réaliser une œuvre, même d'étudier. Elles étaient juste bonnes à faire le ménage. Mais des femmes ont eu un courage considérable et ont réalisé des œuvres qui ont fait avancer le monde, qui ont une importance aussi forte que les œuvres des hommes. Mais les œuvres sont cachées et les femmes sont mortes. Il y a presque 400 femmes qui ont été oubliées. Après, dans mon travail, j'ai mis quand même les quelques femmes, il n'y en a pas beaucoup, qui ont été reconnues. Mais il y en a très peu. Si on demande à quelqu'un de citer 5 poétesses ou 10 poétesses du Moyen-Âge ou de la Renaissance, personne n'en connaît. Et c'est encore pire pour les scientifiques ou les philosophes.
Et alors, c'est quoi sa motivation pour ces 400 toiles? C'est ce que je lui ai demandé.
Ah, la motivation, c'était que je suis vraiment très en colère contre cet oubli des femmes. Elles ne sont marquées nulle part. On dirait que vraiment que le monde a été créé, fait, vécu par des hommes. Et je trouve ça vraiment très étonnant parce que j'ai beau regarder autour de moi, il y a des tas de femmes. Donc, je trouve que c'est un génocide. Un génocide, ouais. C'est très souvent culturel. Parce que ces femmes ont réalisé autant d'œuvres scientifiques, artistiques que les hommes. mais elles ont été effacées de tout. On les a tuées une seconde fois, elles sont mortes. Il y en a qui sont mortes dans des conditions tragiques parce qu'elles ont réalisé des choses et que ça ne plaisait pas au pouvoir de l'époque. Je pense notamment aux sorcières, mais à d'autres. Il y a beaucoup de femmes qui ont été décapitées, comme Jeanne d'Arc. Enfin, elle fait un peu partie des sorcières. Notamment pour les sorcières, c'était des femmes qui avaient une certaine culture, qui pouvaient avoir des dons de médecins, d'autres choses. Et enfin, je trouve ça tragique. Tout est tragique dans l'histoire des femmes. C'est pas que j'aime pas les hommes. Ça aurait été les hommes qui auraient été censurés à ce point-là, j'aurais fait le même tableau sur les hommes. Je n'admets pas qu'on puisse censurer une partie de l'humanité. Il se trouve que ce sont des femmes.
Oui, alors les sorcières, on pourra en faire une émission, hein. Je pense qu'il y aura vraiment de quoi parler, de quoi dire, il y a matière. Marie Morel, dans un livre qui regroupe tous ses portraits, oui, parce que je n'ai pas dit, mais Marie Morel, elle écrit aussi des livres, elle édite aussi des livres d'autres peintres. Bon, alors dans ce gros livre, il y a les 400 portraits, mais il n'y a pas que cela, elle en cite aussi plusieurs milliers d'autres personnes. Et alors ?
Donc moi, je ne peux pas tout faire, moi c'est une sorte de petit démarrage... Et après, à chacun d'en sortir quelques-unes de l'ombre.
Et pour finir, elle dit « Dénoncer les guerres, les conflits, le pouvoir de l'argent comme les intérêts des peuples, le mépris des pauvres et des plus démunis, la censure, les dictatures, la destruction de la nature par des gros pouvoirs financiers, l'incohérence des décisions politiques, etc. » Dénoncer par la peinture est une manière de résister. C'est un moyen pacifique pour alerter et faire réfléchir. Une sacrée femme quand même. Vous pourrez voir ses œuvres jusqu'en septembre 2024, donc à Fézin, à Vendôme, en Belgique, vers Carcassonne, peut-être à Grenoble, peut-être aussi à Malakoff. Enfin, elle expose beaucoup.
Michel, peut-être que dans les portraits tirés par Marie Morel, il y a Niki de Saint-Phalle.
Je ne sais pas, mais il a fallu un certain temps à Niki pour être reconnue comme une artiste à part entière. Elle est quand même sortie de l'ombre, finalement. Niki, elle est née en 1920. Elle a reçu une éducation bourgeoise qui ne la destinait certainement pas à faire une carrière d'artiste. Elle a même d'abord été mannequin, puis s'est consacrée à sa famille pendant quelques temps. C'est à la suite d'une grave dépression traitée en hôpital psychiatrique par des électrochocs qu'elle décide d'aborder l'art en autodidacte. Avec son deuxième mari, Jean Tinguely, qui était lui aussi un artiste reconnu, elle s'est consacrée désormais à la création artistique.
Et elle dit « Je compris très tôt que les hommes avaient le pouvoir, et ce pouvoir, je le voulais. Oui, je leur volerais le feu, je n'accepterais pas les limites qu'on m'imposait parce que j'étais une femme. »
Très longtemps, elle a été classée au second rang des sculpteurs. D'ailleurs, la langue française à l'époque n'avait même pas de féminin attesté pour cet art. On disait « femme sculpteur ». Le mot sculptrice était considéré comme une faute de français, ou même pire, une faute de goût. Niki était belle, élégante. Son allure lui a valu beaucoup de discours misogynes. On la reléguait au rang de poupée, décervelée. Dans les années 70, les critiques d'art ne lui accordent aucune autonomie, laissant entendre que c'est surtout Tinguely, l'artiste du couple. Lors de sa première exposition, elle invite les visiteurs à tirer sur des poches de peinture qui éclaboussent des structures en plâtre, de véritables performances au sens artistique du terme. C'était avant tout un moyen de faire sortir toute cette violence accumulée depuis l'enfance. Niki a été violée par son père et ne s'en est jamais remise, n'en parlant que très tard. Elle explique avoir trouvé dans l'art une espèce de thérapie.
J'ai eu la chance de rencontrer l'art parce que j'avais, sur le plan psychique, tout ce qu'il faut pour devenir terroriste. Au lieu de cela, j'ai utilisé le fusil pour la bonne cause, celle de l'art.
Elle passe ensuite de la colère à l'engagement et explore ce qu'elle appelle le devenir femme. C'est à cette époque qu'elle représente des mariés, des prostituées, des accouchements. toute sa réflexion autour du féminisme et du féminin est incarnée par la série des Nanas, créée à la gloire de la femme moderne, dont les couleurs et les mouvements évoquent la liberté, la taille, la puissance. Ces femmes monumentales sont libérées du mariage et du masochisme, explique la sculptrice. Elles sont elles-mêmes, elles n'ont pas besoin de mecs, elles sont libres, elles sont joyeuses. La plus grande des nanas, également la plus éphémère, présentée à Stockholm dans un salon en 1966, était une nana géante, couchée, jambes écartées, que l'on visitait en entrant par le sexe. Cette énorme sculpture a fait scandale, bien sûr, et a été détruite après l'exposition. On en garde des photos de femmes, d'hommes et d'enfants entrant dans la gigantesque couverture vaginale. Engagée politiquement, féministe, Nikki exprime la conviction que, dans le champ de l'art, les hommes ont maintenant tout épuisé. C'est aux femmes de réaliser quelque chose de nouveau. On écoute une courte interview. Là encore, le son n'est pas très bon.
Vous mettez, vous trempez des chiffons dans un seau, vous les étendez. C'est un peu un travail de bonne petite ménagère, non?
Oui, vous avez raison. Ça fait une partie de mon travail. Mais au lieu de... Le résultat n'est pas une cuisine. Je ne vais pas vous présenter avec un pot-au-feu. Mais j'essaye de vous présenter avec un espèce de délire spirituel de moi-même.
Et pourtant, le résultat n'a rien de féminin.
Eh bien, je ne suis absolument pas d'accord avec vous. Le résultat est féminin, puisque moi, je suis une femme. Ce qui m'intéresse, c'est exprimer une certaine poésie que je sens en moi. Eh bien, je ne peux que exprimer une poésie féminine. Ça n'a rien à faire. Un mec ne pourrait jamais faire ça. Il n'aurait jamais pu tirer avec un fusil sur des tableaux comme j'ai fait à une certaine époque, parce que de se servir de ces engins destructifs que l'homme a imaginés, seulement une femme qui pourrait s'en servir dans un but constructif est beau. Et c'est la même chose avec mon travail. J'exprime exactement les problèmes de la femme aujourd'hui.
Oui, mais je voulais dire qu'au point de vue, il y a une certaine puissance, enfin, qui apparemment...
Alors je vois que j'ai affaire avec un anti-féministe. Alors vous considérez que les femmes devraient peindre des bouquets de fleurs. Moi, je préfère faire des accouchements, parce que c'est mon problème. Les bouquets de fleurs, ce ne l'est pas.
On a nié longtemps l'importance de l'art de Nikki. Aujourd'hui, dans leur symbolique guerrière, les tirs apparaissent comme l'acte fondateur d'une certaine incarnation de la femme artiste, engagée et militante. L'art féministe auquel elle appartient est un mouvement artistique contemporain regroupant des artistes et des œuvres revendiquant ou s'inscrivant dans un discours féministe, résolument féministe. Son apparition dans les années 60 et 70 est concomitante à la prise d'ampleur du mouvement féministe. Ce mouvement s'unifie autour de la place des femmes dans la société artistique, mais aussi dans la société dans son ensemble à travers une remise en cause du modèle patriarcal et de la domination masculine au sein de la production artistique et de l'histoire de l'art. Il vise à faire sortir les femmes de leur isolement artistique et leur donner la place qu'elles méritent dans le monde de l'art, dont les règles et les styles ont toujours été imposés par le genre masculin au cours des siècles. Nikki de Saint-Phalle est présente aujourd'hui dans des bouquins sur la sculpture du XXe siècle, mais encore pas dans tous, et très souvent associée à Tinguely.
La question de la représentation, elle est omniprésente, hein, c'est ce qu'on est en train de voir là depuis le début de l'émission, et c'est important de voir comment certaines femmes peuvent pousser les portes et ouvrir la voie, notamment au travers d'un film.
Oui, Divertimento, c'est un film qui est réalisé par Marie Castille, qui est sorti en 2023. C'est un film qui retrace l'histoire de Zaya Ziouani, qui crée un orchestre en 1998. Pas simplement chef d'orchestre, elle met la musique au service de la philosophie, celle de s'inscrire dans son temps, de transmettre et partager. En 2007, c'est la première chef d'orchestre invitée à l'Orchestre National d'Algérie. Elle crée l'Académie du même nom, Divertimento, en 2008 pour former des jeunes musiciens à la pratique de l'orchestre. C'est une proposition artistique qui mêle les arts du spectacle. Alors il y a de la musique orchestrale, du théâtre, de la danse. Elle fait aussi côtoyer, ça c'est vraiment très nouveau, des jeunes de milieux sociaux différents. Un modèle vraiment qu'on aimerait voir faire des petits. Le film retrace son cheminement et les embûches qu'elle doit surmonter. Voilà la bande son.
Quel est votre instrument?
L'alto, maître. Mais je veux être chef.
Être chef, c'est pas un métier de femme.
Là, vous pressez un petit peu trop.
T'as besoin d'un traducteur ou tu vas réussir à nous dire comment jouer toute seule?
T'as tout ton orchestre. Tu vois un orchestre qui te ressemble. Je sais que je suis jeune, mais la musique, c'est ma vie. Et il n'y a que quand je dirige que je me sens vraiment vivante.
L'orchestre symphonique? Mais attends, Zania, tu te rends compte des finances qu'il faut pour ce genre de projet? C'est ma faute, j'oublie que t'as 17 ans.
Que le MERS, cet orchestre, c'est un investissement pour la ville et pour les jeunes. Oui, j'estime que les habitants de Stein méritent d'accueillir et d'entendre de grandes œuvres dans de bonnes conditions.
Vous voulez changer le monde, en fait?
Je suis qui pour prétendre diriger cet orchestre?
Moi, si c'est ça que tu veux, être chef d'orchestre, alors accroche-toi, ma fille. Ne laissez pas la vie choisir à votre place.
Ouais, un très beau film, je vous le recommande. En 2020, selon la SACD, Société des auteurs et des compositeurs dramatiques, on ne dit pas encore compositrice, 4% des chefs sont des femmes. C'est parce que c'est leur réseau, parce que c'est leur habitude, dit Claire Gibault, qui est aussi une chef d'orchestre, quand elle parle des hommes, alors qu'il y a autant de femmes que d'hommes inscrits dans les conservatoires. Conservatoire, un mot bien choisi pour rester... les mêmes, dans la même norme.
Bon, mais alors la voix, elle s'ouvre un peu plus en tout cas. Même parfois, c'est un quadrimestre entier qui est consacré aux femmes. La scène nationale de Bourg-en-Bresse a choisi de parler des héroïnes. D'ailleurs, pourquoi faire ce choix de sujet? J'ai posé la question à Vincent Roche-Léca, le directeur.
On n'a pas particulièrement souhaité faire le trimestre de la femme dans une, j'en sais rien, dans une volonté de bonnes œuvres ou je ne sais quoi. Cette thématique, comme les 8 autres, on a l'impression que ça agite les créateurs et créatrices aujourd'hui, qu'il y a plein de spectacles sur les plateaux qui parlent de ça. Et puis encore une fois, au-delà de la question du féminin, c'est la question de l'héroïsme au féminin qui nous intéresse parce que on se plaît à croire que l'héroïsme féminin repose sur des valeurs autres que celles qui sont peut-être assez caricaturales et emblématiques de l'héroïsme masculin. Et c'est ça qu'on a envie d'explorer avec toute une série de prises de parole et de regards poétiques.
Ok, alors on entend qu'il y a bien une volonté de déconstruire le regard autour de cette figure de l'héroïne. On n'a pas entendu le mot féministe ou féminisme. Et en dehors de ce quadrimestre, on continue de s'engager pour plus de parité, plus de diversité?
La question de la bonne représentativité de l'ensemble des franges de la population, elle est évidemment au cœur d'un théâtre public qui est financé par de l'argent public. Et donc, à un moment, on ne peut pas ne pas se poser la question d'une équité dans le traitement soit des sujets, soit de la représentativité des artistes sur scène ou de ceux qui portent des projets.
Anne Huiton, je rappelle que vous êtes programmatrice à la Tannerie, la scène de musique actuelle de Bourg. Cette question des représentations, vous la posez aussi forcément. Comment est-ce qu'elle peut se mettre en œuvre quand il s'agit de l'égalité de genre au sein d'une SMAC?
Alors, elle peut se mettre en œuvre en essayant de tendre vers la parité sur scène. Donc, je dis bien tendre, puisque je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on doit être à peu près 35% de femmes programmées sur la scène de la Tannerie. Donc, on avance et il faut surtout qu'on continue d'avancer. Je voudrais rappeler, là, je vois qu'il y a eu quelques chiffres qui ont été cités dans les dernières études. Au niveau des leads féminins dans les musiques actuelles, on n'est quand même qu'à 17%. Et au niveau des directrices de SMAC, le pourcentage n'est quand même que de 20%. Donc, ça avance, on progresse. Mais encore il y a encore du chemin
on
à faire.
On part de loin, en fait.
Et là, je ne parle pas de tous les métiers techniques. Là, j'ai des collègues qui étaient aux rencontres techniques en début d'année. Et le chiffre, là, ne bouge quasiment pas. Je crois qu'on est aux alentours de 12%. Voilà. Donc, ce qu'on peut faire, nous, c'est bien évidemment laisser la plus grande place possible sur scène aux femmes. Également proposer des soirées thématiques comme on a pu le faire dans le cadre de la soirée Pawa Club, donc, qui était une soirée destinée aux femmes et aux personnes minorisées et qui était conçue comme un parcours. Et c'était une soirée un peu d'empowerment. Et là, de notre côté, on a été également chercher des femmes au niveau de la technique, puisqu'on en a peu dans notre base d'intermittents, intermittentes. Voilà, moi, je pense que c'est aussi par cette espèce de sororité qu'à un moment donné, on peut toutes se donner de la force et puis avancer. Moi, j'ai eu la chance de faire partie, par exemple, d'un programme de mentorat qui s'appelle WA, qui est destiné aux femmes qui travaillent dans les musiques actuelles. Donc on s'est retrouvés, on était une petite quinzaine de binômes. Donc à la fois des femmes programmatrices, des femmes directrices de lieux, des femmes directrices techniques. Et tant pour les mentors que les mentorés, on s'est aperçu en fait que on se traînait quand même des casseroles énormes et qu'on se posait toute la question de notre légitimité, quel que soit notre âge. Et qu'à un moment donné, pour arriver à briser le plafond de verre, eh bien, on a vraiment besoin d'être entre nous, entre femmes, de se donner de la force, de réseauter, parce que les hommes réseautent beaucoup. Et les femmes n'ont pas trop ces habitudes de réseautage.
Est-ce qu'elles ont vraiment le temps, finalement?
Oui, mais est-ce qu'on leur a, à un moment donné, laissé cette opportunité? Là, petit à petit, les choses bougent. Il y a plein de programmes qui se mettent en place pour les femmes musiciennes, pour bénéficier aussi un peu de ce système de mentorat, entre guillemets. Heureusement, il y a des festivals qui existent comme les Femmes Sans Mêle, qui, là, j'ai découvert récemment qu'il existait comme ce festival depuis 25 ans. Donc, bien avant qu'on se pose toutes ces questions liées autour de la parité. Après, moi, je rajouterais que j'ai la chance de travailler dans une équipe paritaire avec un directeur résolument féministe qui avance depuis quelques années sur une discothèque féministe. Donc au niveau de l'équipe, au niveau des femmes de l'équipe, on a déjà pas à convaincre les hommes qui sont majoritairement quand même convaincus qu'il faut que les choses bougent et qu'il faut qu'on ait plus de femmes sur scène. On a pu initier notamment la Suffragette Week il y a quelques années, qui était vraiment un événement thématique destiné à mettre en avant les femmes. Et puis là, je crois que la volonté, c'est au-delà d'une semaine thématique, c'est vraiment de les mettre en avant dès qu'on le peut. Là, toutes les ouvertures de trimestre cette saison, ce sont des duos ou des groupes uniquement composés de femmes. Et voilà, si vous suivez un peu la prog de Lactanerie, il y a beaucoup de rendez-vous réguliers où on peut découvrir ces femmes. Je crois que c'est très important aussi pour les plus jeunes qui arrivent, notamment, par exemple, on a des open mic tous les mercredis.
Alors, c'est quoi, ça?
Alors, c'est des micros ouverts,
d'accord,
d'esthétique rap, où, en fait, n'importe qui peut venir et puis prendre le micro sur une instrument... Lancer une instrument... Enfin, lancer un morceau, voilà. Ouais. Danser des sons, on va dire, ça sera plus simple. Ouais. Et puis, déclamer son texte.
Et il y a des filles là-dessus?
Eh bien, on commence à en avoir depuis 2-3 ans, alors que ça fait une bonne dizaine d'années qu'on a... à mes yeux, on progresse vraiment.
Pour revenir à l'intérieur de l'institution, dans l'interview avec Vincent Rochleca, on a aussi évoqué le rapport qui a été rédigé par Rennes Pratt, mais en 2009. Depuis, il n'y a pas eu grand-chose qui a été mené en termes d'enquête. Enfin, en tout cas, on n'a pas trouvé d'infos. Joëlle, est-ce que tu peux juste nous faire un point sur ce rapport?
Alors, des rapports comme ceux qui ont été réalisés par Rennes Pratt lorsqu'elle travaillait au ministère de la Culture, alors en 2006, le premier, en 2009, le deuxième, et des états des lieux comme celui qui a été publié il y a un an, la présence des femmes dans la filière musicale, en février 2023, donc c'est plus récent. Alors, toutes ces études, elles montrent la disparité énorme, vraiment énorme, entre les femmes et les hommes, mais à tous les niveaux de la culture et dans tous les genres. Le livre que j'ai lu de Rennes Pratt, qui s'appelle « Exploser le plafond », tu parlais d'un plafond tout à l'heure, Anne, montre que les études ne font pas tout. Il existe, comme dans d'autres domaines, un plafond de verre, c'est-à-dire des obstacles qui ne se voient pas tout simplement parce qu'ils font partie du paysage. Le corps des danseuses blanches et sveltes, par exemple, les subventions données par des hommes blancs à... des hommes blancs, tu parlais de réseautage, hein, c'est ça, tout simplement parce qu'il y a de l'entre-soi et que personne n'est venu déranger cet ordre établi. Il suffirait que les subventions de l'État, notre argent en fait, soient redistribuées autrement, pas toujours au même. C'est ce que dit Rennes Pratt dans son bouquin. Elle cite Planchon, par exemple, qui est resté 24 ans à la tête du TNP à Villeurbanne. Pourquoi? Parce que c'était un homme qui était reconnu. Et elle parle de cette place de l'artiste qui est spéciale, ces icônes. On en parlait un tout petit peu aussi tout à l'heure, qui prennent au-dessus de tout, y compris au-dessus de la loi. Et là, les exemples, on a vraiment tous les jours. En ce qui concerne l'accession des femmes à des postes de responsabilité et de décision, on en a parlé tout à l'heure dans le domaine de la direction d'orchestre, Rennes Pratt ne parle d'ailleurs pas que des femmes, elle parle aussi des autres groupes qui ne sont pas dans la norme, blanche qui a l'habitude du pouvoir. Donc aussi des gens qu'on appelle racisés. Moi, j'aime pas ce terme, mais enfin, voilà. Mais comment de directrices, en fait, combien de directrices noires dans les théâtres de la région ? Point d'interrogation. Les choses bougent, oui, ça c'est sûr. Tu le dis, Anne, ça bouge un peu, oui, mais pas aussi vite que le voudraient ceux qui n'ont pas accès au pouvoir. Et Reine Pratt termine l'essai en disant « Reste à savoir si les changements nécessaires seront le fruit de la mise en commun de préoccupations qui finiront par se rejoindre ou s'ils devront être obtenus par des luttes qui pourraient se radicaliser ».
Alors du côté du théâtre de Bourg-en-Bresse, Vincent Rochelecal, directeur, pour lui, il y a un changement. Il parle d'une lame de fond depuis 15 ans, avec des artistes qui s'emparent des sujets de l'intime et mettent parfois la question du genre au cœur de leur création. Ça, c'est vrai qu'on le voit de plus en plus quand même sur les spectacles ou les propositions artistiques qu'on peut avoir. Jeanne Garraud est metteuse en scène. Elle est associée à cette thématique héroïne là, de la scène nationale burgienne. Comme on a pu l'évoquer en début d'émission, pour elle, le rôle de la femme modèle, c'est celle qui va ouvrir la voie et il est essentiel ce rôle. On l'écoute.
En tant que femme, on a peut-être, suivant les domaines artistiques, moins de modèles quand on est enfant. Par exemple, pour le théâtre, je pense qu'il y a plus d'hommes édités, d'hommes auteurs ou de metteurs en scène hommes. En tout cas, moi, dans ma jeunesse, c'était ça. Donc, c'est plus là qu'il pourrait y avoir une différence, à mon avis. C'est ce dans quoi on se projette et... Voilà, après, concrètement, je ne pense pas qu'il y ait de différence dans la pratique à être un homme ou une femme, d'autant que aujourd'hui, dans le monde du théâtre, les choses évoluent. Il y a quand même plus d'autrices, plus de metteuses en scène, plus de directrices de lieux que quand j'étais enfant. Mais par contre, pour se construire, je pense que plus il y aura de femmes qui sont autrices, qui sont metteuses en scène, qui sont peintres, qui sont écrivaines, plus ce sera simple pour les générations filles à venir de devenir des artistes femmes. Voilà, c'est plus ça qui compte, à mon avis, pour arriver à devenir, à imaginer ce qu'on va devenir et à parvenir à devenir, quoi.
En écho aux propos de Jeanne Garraud, retrouvons la sociologue Séverine Sofio, qu'on a entendue en début d'émission, expliquer l'importance de ces exemples qui autorisent, qui rendent possible, pensable, son propre engagement.
Et puis c'est vraiment des grands noms, quoi. Ça prouve que c'est possible. Enfin, c'est l'effet d'exemple... C'est aussi important dans la mesure où un des handicaps aussi de la création pour les femmes, c'était ce que Delphine Naudier appelle le déni d'antériorité, c'est-à-dire le fait qu'on considère toujours les artistes femmes comme nouvelles, comme pionnières, parce qu'il n'y avait rien avant elles, c'est tellement des exceptions, des objets exotiques. Or, comme je l'ai dit, il y a toujours eu de la création par les femmes, mais le fait qu'elles n'existent pas, qu'elles soient invisibilisées par l'histoire, bah, ça fait que chaque nouvelle artiste qui arrive a l'air d'être tout devoir réinventer. Et elle porte sur ses épaules toute la condition de la création des femmes. Voilà, là, le fait qu'il y ait des grands noms, c'est vraiment important. Et les jeunes artistes femmes se réfèrent beaucoup à ces grands noms.
Puis il y a aussi la question de ce qu'elles proposent, ces artistes femmes. Le spectacle de Jeanne Garraud, c'est Marguerite l'Enchantement ou l'histoire d'un couple après la naissance de leur premier enfant. J'ai demandé à Jeanne Garraud si, quand on est une femme artiste, on est obligé de parler de ça.
Je crois qu'on est obligé de surtout pas en parler, au contraire. C'est-à-dire que moi, justement, quand j'ai voulu écrire là-dessus, je me suis dit, mais c'est vraiment le sujet qu'il ne faut pas aborder dans le milieu artistique. D'ailleurs, toutes les femmes, moi, artistes que j'ai pu... la plupart des femmes que j'ai pu admirer depuis mon enfance, c'est quand même la majorité du temps des femmes qui n'ont pas d'enfants, qui sont la plupart du temps homosexuelles. Donc, c'est pas un modèle de famille nucléaire avec enfants. Et y a assez peu de femmes qui revendiquent ça, mais d'hommes aussi, mais comme si c'était le sujet à l'inverse de l'artistique. C'est-à-dire que la parentalité, c'est comme le sujet qui est, par essence, pas artistique. Ça m'a fait un peu cet effet-là. Et du coup, d'en parler, au contraire. Enfin, en tout cas, j'ai eu l'impression que j'allais raconter une chose sur scène qui était vraiment quelque chose qui pouvait faire fuir. Et puis finalement, non. Et puis en plus, ils s'en parlent de plus en plus. Mais en tout cas, c'est vrai que la question de faire famille, c'est pas une question qui est... Enfin, c'est plus simple de dire « je fais un spectacle féministe » que de dire « je fais un spectacle sur la maternité ».
Bah ouais, le féminisme, c'est aussi un peu à la mode. Est-ce que ça pousse pas parfois des artistes à s'emparer de certains codes liés au féminisme pour être visibles ? Par exemple, dans le milieu musical, on a en tête des superstars comme Beyoncé ou Lady Gaga qui vont surfer sur cette vague. Si on revient à un niveau plus local, Anne, en tant que programmatrice, est-ce que vous avez vu une évolution des propositions artistiques ? Et est-ce que le fait d'être une femme induirait le fait d'aborder certaines thématiques plus précises ?
Il me semble que la scène féminine se développe un peu plus. Donc, ce que je disais tout à l'heure, notamment sur les open mic, où on voit plus de jeunes femmes venir et prendre le micro. Avant, on avait quelques jeunes femmes, mais qui ne prenaient pas le micro, qui étaient en observatrice. Et ça, il me semble que c'est quand même lié à une scène féminine rap qui a certes du mal à émerger. Mais par exemple, nous, on a reçu des artistes comme Kazé, comme Chilla, comme Tracy Dessa, ou plus récemment la jeune Turtle White. Et ça, je pense que il me semble que c'est grâce à ces, entre guillemets, exemples-là, ou modèles, ou références, on va dire plutôt, sur scène, que les femmes arrivent à se lancer. Donc il me semble que oui, petit à petit, les curseurs arrivent à bouger. Voilà, même si ça semble un peu subtil, les curseurs bougent.
Et dans les contenus de ce qu'elles racontent, ces femmes, là, vous citez Kazé, pour le coup, elle ne joue jamais sur cette question de la féminité, elle ne va pas avoir des propos plus féministes que ça.
Non.
Est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes artistes seraient un peu à parler de ça, d'être femme? Est-ce qu'il y a quand même cette question de la revendication aussi, de prendre sa place en tant que femme et de le dire?
Pour certaines, oui. Par exemple, vous avez les vulves assassines ou ce genre de groupe voilà, qui vont être assez revendicatrices. Après, je n'ai quand même pas l'impression que ce soit une réelle lame de fond. Dans les plus jeunes que je peux côtoyer, enfin, dans la tranche un peu lycéenne, je ne peux pas dire que j'ai remarqué des propos spécialement revendicatifs ou féministes. Un petit peu, voilà, pour certaines, oui, mais je n'ai pas l'impression que ce soit une vraie révolution dans ce sens-là.
Bah, finalement, on a la sensation que pour que les femmes soient sur le devant de la scène, on aurait presque besoin de créer cet amphore, en fait, ces semaines thématiques, ces actions 8 mars. Bon, mais après, on fait quoi, Jeanne Garraud?
Une fois que c'est normé, que ça puisse être normal qu'une femme puisse diriger un théâtre, puisse diriger une compagnie, puisse être actrice, pas actrice, technicienne, très bien. Et effectivement, il faut aller plus loin. C'est-à-dire le problème qui existe, qui demeure, qui a pu exister encore plus, c'était les rapports de hiérarchie ou de domination entre les hommes et les femmes. Et bien, il faut regarder les rapports de domination plus globalement, il me semble. Voilà.
La question, elle s'est posée aussi avec une sculptrice que tu as rencontrée, Joëlle.
Oui, c'est la question justement que se pose Sabine Lee dans la fin de l'interview qu'on écoutera tout à l'heure. Sabine Lee, c'est une sculptrice de la région lyonnaise. Art et féminisme, autant dans les sujets qu'elle crée que dans sa démarche. Sabine a sa place aujourd'hui. Je lui demande de décrire la photo qui ouvre son site.
Ça fait plusieurs années que je travaille sur une figure de femme, on va dire forte dans tous les sens du terme. Vraiment une figure de femme grosse, forte, en mouvement, puissante. Et j'aime exposer, mais pour moi, ça a du sens aussi. J'avais envie. Je les expose toujours en groupe, parce qu'il y a la force du. Ça prend encore plus de force avec le collectif. Un peu du. Donc c'est en groupe, c'est des femmes qui sont dans un truc dans les flammes, et qui sont. Comment dire? Pour moi, elles subissent pas les flammes. Elles sont. Elles en jouent, elles en sortent, elles les combattent, elles vont en sortir victorieuses. Elles sont, donc ça, cette photo-là, elles ont des espèces d'entraves, là, elles ont des espèces de, c'est pas des chaînes, mais c'est du fil de fer. C'est pareil, c'est dû au processus de cuisson, mais là, effectivement, ça rend quelque chose de très symbolique, c'est comme si elles s'extrayaient de leur chaîne. De puissance et puis d'être de survivre à plein de choses là. Il y a bien entendu une référence à, comme c'est des personnages, des femmes dans des flammes, il y a bien entendu une référence aux sorcières, mais là du coup c'est des sorcières qui vont pas subir les flammes. Cette interaction particulière avec les flammes, c'est parce que c'est elles qui génèrent les flammes, parce que c'est les sculptures, on les sort du four quand elles sont à haute température, à 900 degrés, je les pose sur de la sure. Et en fait, il y a une interaction particulière avec ces femmes parce que c'est elle la source de chaleur, c'est elle qui génère les flammes. Donc il y a aussi ça, c'est que c'est elle qui embrase, c'est elle qui met le feu, quoi.
Ah, c'est une belle symbolique, hein, c'est un peu inversé ça, cette histoire. Sabine Lee, elle a commencé son travail à l'occasion d'une aventure avec le collectif féministe Ma Colère il y a une vingtaine d'années à peu près. C'est un article Le travail, c'était un article théorique et des témoignages de femmes qui étaient mis en texte et en page et illustrés. C'était, le thème était travailler sur l'image de son corps, la grosseur, les poils, pas un corps parfait. Alors, il y a 20 ans, quand même, hein, maintenant, ça passerait différemment, mais il y a 20 ans, c'était quand même innovateur. La grosseur était représentée souvent en corps offert et Sabine a envie de les représenter des corps gros de femmes, mais vivants et en mouvement et puissantes. Mon corps est un champ de bataille, c'était le sujet de ce travail. Et 20 ans après, alors est-ce que ça bouge? Est-ce que l'art, est-ce que la représentation fait bouger les idées au quotidien?
Alors ça bouge un peu, mais j'ai l'impression que oui, ça bouge un peu parce que même il y a eu des campagnes, tu sais, des campagnes par des genres Dove ou des trucs comme ça, ou des trucs de la mode qui montraient des corps ou dans les arts du spectacle, les arts vivants, où on voit plus quand même de diversité dans les corps qui sont représentés. Ça, il y a ça, quelque part, ça évolue parce que mais j'ai l'impression que en parallèle, que les jeunes filles, de plus en plus tôt, se mettent des contraintes sur leur corps. J'ai l'impression que c'est contradictoire, quoi. Une espèce de mouvement où effectivement il y a la place pour plus de diversité, mais par contre, dans le quotidien des femmes, il y a toujours aussi contraint et toujours aussi violent. La pression qu'on met aux femmes sur l'apparence de leur corps, quoi. Ça c'est certain. Avec les histoires de non-binarité, il y a des corps de plus en plus différents, mais je suis pas sûre que ça fasse tant avancer les choses au niveau personnel. C'est pas si simple d'assumer la différence, d'assumer des corps gros poilus partout, quoi.
Alors sa pièce, elle s'appelle « Armée de terre cuite » et en fait, au fur et à mesure que les sculptures sont créées, elles rejoignent cette armée de terre cuite. Les femmes sont rangées les unes à côté des autres, en fil, on dirait qu'elles avancent ces armées. Et puis la question de l'émission que je vais poser en fin d'interview, c'est « Alors, art et féminisme, c'est quoi ?»
On est là, on ne va pas bouger, et on a toujours été là et on restera là. C'est un truc d'affirmation. Ouais, comme une espèce d'écrire une histoire, quoi, d'affirmer une place dans l'histoire, tu vois. Mais oui, bien sûr, après, les celles qui sont en mouvement, c'est plus un truc de défi, à l'ordre établi ou des défis à, tu vois, il y a un truc. Alors le mouvement, c'est un truc vers la liberté, oui, vers un truc, je sais pas, plus libre, plus. Clairement, le féminisme, moi, c'est quelque chose qui me dans plein d'aspects de ma vie, donc. Et puis voilà, aussi de mon histoire, c'est tellement présent que voilà. Mais sur l'art et le féminisme, que dire? Je trouve qu'il y a eu, ces derniers temps, il y a eu beaucoup, ça a été un vrai sujet, et tant mieux, et qu'on a vachement remis en valeur, des travaux de femmes, artistes, donc ça c'est chouette. Faudrait pas que ça devienne un truc marketing, là, parce qu'il va se plaindre qu'il y ait plus de visibilité pour les femmes artistes. Mais là, il y a un peu en ce moment ce truc de tout le monde est féministe, donc c'est chouette, mais...
Oui, c'est vrai. On pourrait en faire une émission sur ce thème une autre fois, de comment est utilisé ce terme de féminisme.
Alors, pas de sélection culturelle pour cette émission, mais avec tous les artistes cités, vous avez de quoi faire. Merci Anne Huiton pour votre présence et votre engagement pendant cette émission.
Merci à vous.
Avant de nous quitter, quand même des infos agenda, parce qu'il faut noter tout ça, hein, le 8 mars finalement ça compte quand même un peu. Et le côté positif, je trouve, c'est que la programmation s'affine autour de cette journée des droits des femmes. Et ça commence avec la programmation des collectifs féministes de Bourg et associés. Un flyer est d'ailleurs disponible avec toutes les informations. Il ne faudra pas rater entre autres la marche au flambeau en non-mixité choisie du jeudi 7 mars. Notre émission « Il n'y a pas que le 8 mars » délocalisée a un peu avancé. Donc rendez-vous le 8 mars à 16h30 à la Maison de la Culture et de la Citoyenneté de Bourg. On vous propose de nous retrouver en direct pour une émission qui fera le lien entre l'événement piloté par le Centre Social de la Ressouze autour des structures qui accompagnent les femmes et la manifestation organisée par les syndicats ce jour. Et bien sûr, du côté de la tannerie, des soirées spéciales, le jeudi 7 mars avec le spectacle Sakura et le vendredi 8 mars, un temps plus festif. Toutes les infos concernant ces événements seront accessibles sur la page Facebook du collectif féministe de Bourg, allez la liker. Merci à toutes les quatre pour cette émission. On se retrouve en mars en direct de la MCC de Bourg. À bientôt.
À bientôt.
À bientôt.
qu'est-ce qu'il a, le corps des femmes, pour qu'on lui foute jamais la paix? Combien faut-il de cris de larmes pour qu'on lui rende sa liberté? Mais qu'est-ce qu'il y a dans toutes les têtes de ceux qui bossent à la télé, sur les antennes, dans les papiers, toujours à vouloir nous glacer, nous enfermer dans leurs idéaux un peu macho, nous asservir pour assouvir comme des salauds leur libido? Mais qu'est-ce qu'il a, mon corps de femme, pour qu'on lui foute jamais la paix? Est-ce que ce serait vraiment un drame si on le montrait comme il est? Le corps des femmes. Mais qu'est-ce qu'il a, mon corps de femme, pour qu'on le voie